Actu SF, les podcasts.
Bonjour, bienvenue sur cette table ronde avec un sujet hautement chaleureux après l'heure de la sieste. Donc je vous remercie tous d'être avec nous. Et donc nous allons pouvoir discuter d'une manière très intime, j'espère, avec donc Fabien Wellmann donc et Gwen de Bonnevald, dont on pourrait presque ne plus présenter le parcours, mais à vous deux, vous rassemblez quand même quelques dizaines de prix, quelques centaines de titres au minimum, j'imagine, et avec des noms comme Spirou, comme le professeur Cyclope, comme tout ça. Donc vous êtes ce qu'on peut appeler aujourd'hui un vieux couple.
C'est ça, qui se connaît bien.
Et oui. Donc vous allez nous parler d'érotisme.
Et alors, c'est ça aussi.
Je dirais le schisme entre le titre de la table ronde, à savoir l'art de réinventer l'érotisme aujourd'hui, et Polaris, donc la bande dessinée dont on va parler, me poser en premier une question. C'est effectivement aujourd'hui, à l'heure d'un Tinder, d'un YouPorn ou d'un adopteunmec.com et tout ça, comment est-ce que l'on peut faire quelque chose d'érotique aujourd'hui? Et la deuxième question, c'est finalement, est-ce que votre bande dessinée, ici présente, est une bande dessinée érotique?
Eh bien, vaste débat. Alors déjà, merci beaucoup, petit coquinou et coquinette, d'être ici en vous demandant bien, mais qu'est-ce que fout ce truc dans les Utopiales? Alors, précisons effectivement que c'est un récit criminel avec des scènes explicites qu'on pourrait qualifier d'érotiques, mais que la question peut se poser au vu des réactions du public, des gens qui ont commencé à lire l'album, sur est-ce que c'est un livre érotique? Un livre érotique ou pornographique aurait pour visée première l'excitation du public? Je ne suis pas certain que Polaris a ça en visée première, je ne crois pas en fait. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir une excitation à la lecture, mais je pense qu'elle sera plus cérébrale que sensuelle ou charnelle. A priori, je ne sais pas comment tu te positionnerais, mais... Oui, ok.
Il y a des scènes... je n'ai rien dit. Il y a des scènes explicites, hein, on ne sait pas... empêcher de montrer ce qu'il y avait à montrer, puisque c'était quand même le sujet. Mais Fabien, tu as quand même manié pas mal de concepts dans cette histoire. Et il fallait les incarner par des personnages. Et puis il y a une histoire aussi, il y a une intrigue. Donc moi, mon rôle, c'était cette incarnation-là. Et la narration, et du coup, mettait un parti. Et il a fallu se poser des questions, justement, sur la représentation des corps. Quel type de corps faire, à quel moment. Et on est un peu sur un fil de crête entre... le sujet, c'est l'érotisme, mais c'est pas forcément à but masturbatoire, c'est pas forcément de l'excitation. On lit pas Polaris juste pour ça, quoi. C'est une quête et une enquête existentielle.
On précise qu'on n'a rien contre la masturbation. Hein. ça peut être très sympa. C'est juste que c'est... Non, voilà, si maintenant on doit mettre une étiquette sur les livres de cul pour dire attention, ce n'est pas exactement fait pour se masturber, ça va être hyper compliqué. On le mettra sous blister, mais avec écrit ne permet pas la masturbation.
Vous n'avez pas eu de réaction déjà de.
Non, pas sur ce sujet-là. Mais on précise bien que ce n'est pas du tout avec une idée morale qui consistera à dire qu'est-ce que c'est que cette sous-littérature qui serait amenée à être excitée dessus. D'ailleurs, un des sujets de Polaris, c'est de dire qu'au contraire, il y a une place tout à fait légitime à la pornographie ou à l'érotisme. La question, c'est qu'est-ce qu'on met dans cet érotisme et dans cette pornographie? Et c'est un sujet qui me passionnait. Alors peut-être qu'il faut quand même que je revienne un peu sur la genèse de mon intérêt pour la question et ensuite comment on s'est rencontré avec Gwen pour faire ce livre.
Mais là, c'est vrai que tu évoques quand même...
Je t'en prie.
C'est pas une aparté, mais presque la limite entre l'érotisme et la pornographie, forcément, c'est quelque chose, disons, qui est presque totalement subjectif. Mais là, bon, je les ai pas mis forcément sur le diaporama, mais on a quand même des images explicites. Même si c'est pas un dessin hyper réaliste, mais bon, quand même, on reconnaît bien de quoi vous voulez parler au niveau graphique. Donc voilà, est-ce que dans la genèse du travail, la question de où est-ce qu'on s'arrête, est-ce que ça a été évoqué, j'imagine, et comment vous l'avez dépassé pour pouvoir publier, quoi, forcément.
Bah, La question de fond, enfin, qui moi m'animait par rapport à un projet comme celui-là, ou à ce que j'ai écrit avant, que je suis un peu obligé toujours d'évoquer en amont, à savoir un projet qui s'appelle L'herbier sauvage, c'était de me dire comment est-ce qu'on pourrait aborder la sexualité de manière intéressante, un peu originale, en livre ou en bande dessinée. Donc L'herbier sauvage a été mon premier pas vers ces sujets que je connaissais mal. Mais ma toute première motivation avant de faire L'herbier sauvage, c'était de me dire, et si on faisait une bonne BD de cul? C'est un bon début pour réfléchir à un projet. Et si j'écrivais une bonne BD de cul? Et puis après, une fois que je me suis dit ça comme une sorte de défi d'ado, du style, est-ce que j'en suis capable? Je me suis rendu compte, c'est quoi une bonne BD de cul? J'en sais trop rien. Est-ce que je vais mettre mes fantasmes dedans? Est-ce que je suis prêt à les assumer? Est-ce que je prends un pseudo? Est-ce que j'ai des choses intéressantes à raconter? Je me suis rendu compte que la première chose qui m'ennuyait, c'est que j'étais pas certain d'avoir des choses très intéressantes et singulières à raconter sur la sexualité. Mais, j'en reviens à ce qui me guide dans le fait d'avoir envie de faire une fiction explicite, j'avais l'intuition et la conviction que la bande dessinée permet quelque chose sur l'érotisme et la pornographie, que le cinéma a beaucoup plus de mal à faire. C'est de pouvoir raconter une histoire avec des scènes explicites sans poser toutes les questions éthiques et pratique que pose un tournage pour le cinéma. La littérature, je mets ça de côté, parce qu'effectivement, la littérature permet d'introduire des scènes explicites sans trop de difficultés, mais si on parle de l'image, et donc de la représentation des choses, en particulier justement la représentation de la chose sexuelle, la bande dessinée, pour moi, a vraiment un rôle à jouer, un rôle hyper important, qui a finalement été peu utilisé, à part dans les années 80 un petit peu, on reviendra peut-être un peu sur cette genèse d'une forme de BD érotique qui a assez bien marché avec des gens comme Manara ou Serpieri. Mais en gros, pour faire, je prends toujours un peu les mêmes exemples, c'est que en BD, du moment que le dessinateur ou la dessinatrice accepte de dessiner les scènes, c'est un accord entre personnes qui vont dire bah, maintenant on met ça en scène et ça ne va nuire à personne d'autre que les gens qui le font et ça ne leur nuit pas beaucoup. Au cinéma, si on veut, je ne parle pas de cinéma strictement pornographique, mais de cinéma où il y aurait des scènes explicites parce qu'on estime que dans la vie, il y a du cul. Et que si je veux montrer dans un film du cul, on n'est peut-être pas obligé à chaque fois de faire une ellipse ou de montrer un train qui rentre dans un tunnel ou d'aller vers le... Souvent, il y a la caméra qui va vers la fenêtre. Et puis, on s'arrête là. Et dans la vraie vie, c'est rarement comme ça que ça se passe. Enfin, sauf si vous aimez vraiment beaucoup regarder les trains qui rentrent dans les tunnels ou que vous regardez vers la fenêtre à ce moment-là. Et donc, du coup, c'est dommage quand on veut faire un récit qui se veut réaliste, qui n'est pas forcément un récit pornographique, mais qui montre ce que peut être le cul dans la vie de tous les jours. C'est dommage de faire un blackout sur cette partie. Or, si on fait ça au cinéma, on a plein de problèmes qui se posent. La plupart des méthodes pour s'en sortir, ça consiste soit à insérer des plans pornographiques avec des acteurs qui sont des acteurs de porno, et on fait un insert, désolé aussi pour cette... Voilà. Typiquement, dans un film de Dumont, comme La vie de Jésus, il y a une scène comme ça où deux personnages font l'amour, il y a un insert d'un plan de pénétration dont on peut comprendre a posteriori qu'il a été fait avec des acteurs de X. Mais ça veut dire qu'en tant que spectateur, je me pose un peu la question de ce que je suis en train de regarder. Le risque, c'est que ça me fasse un peu sortir du film. Autre option possible, c'est celle qui est d'amener des acteurs de films de cul à apprendre à jouer la comédie. Ce qu'a fait Breya avec Rocco Siffredi ou avec Virginie Despentes avec Baise-moi. Je crois que c'est deux actrices qui venaient d'abord du cinéma porno. C'est faisable, c'est assez compliqué, mais c'est faisable. Ou alors, dernière option, on pousse des comédiens classiques à accepter d'être filmés de manière explicite. Et c'est l'option la plus problématique, souvent. C'est qu'en fait, elle a amené des fois des abus assez amplement documentés depuis. Je pense au Dernier Tango à Paris ou à certaines scènes de films de Breya où on sait que les comédiens et comédiennes ont parfois mal vécu le fait de devoir jouer ces scènes-là. Et en BD, on n'a pas ces questions-là. On peut montrer ce qu'on choisit de montrer. Et donc, c'est un outil que je trouve assez formidable. Et donc, intellectuellement, d'abord, je me disais, mais pourquoi on ne s'en empare pas? Comme je ne savais pas quoi aborder et comment, j'ai préféré passer par un projet intermédiaire qui s'appelle L'herbier sauvage, qui sont des entretiens avec des contributeurs, contributrices, volontaires, anonymes, qui me racontent leurs histoires de cul. Il y a peut-être des gens parmi vous dans cette salle qui l'ont fait à Nantes, parce que je le fais relativement régulièrement aux alentours des concerts de Stéréolux. Et ça m'a appris à avoir une vision un peu plus globale de plein de formes de sexualité, et donc d'avoir l'impression, si ce n'est de maîtriser le sujet, en tout cas de me sentir un peu moins candide par rapport à plein de formes de sexualité, et pas uniquement la mienne. Une fois ça posé, l'envie d'une fiction, donc en fait c'est comme si j'avais construit par étapes quoi, la fusée, l'envie d'une fiction avec des scènes explicites est revenue, et c'est là que la rencontre, pas rencontre en tant que personne, on se connaît depuis très longtemps avec Gwen, mais la rencontre physique, en voulant discuter d'un projet commun, à ramener le sujet sur la table. Peut-être c'est cette partie que tu peux évoquer.
Oui, comme on a entamé ce projet-là, je savais que Fabien travaillait sur l'herbier sauvage. On avait fait une revue aussi, une revue numérique qui s'appelle Professeur Cyclope, qu'on avait fait ensemble, dans laquelle tu avais pré-publié, enfin diffusé déjà un certain nombre de rencontres, de réécritures de l'herbier sauvage. Et, mais on ne se dirigeait pas du tout vers ça ensemble. Et quand on a régulièrement envie de faire des projets au cours de notre vie. Et là, on s'est revus avec des notes. J'avais un carnet de notes, des crobards et tout ça. Et il y a un moment donné où parmi toutes mes notes, il y avait un début de projet, mais qui était plutôt une histoire d'amour, mais qui partait bizarrement sur à partir d'un rêve que j'avais fait d'une personne qui rencontrait une femme dans un bar qui en fait était l'amie de son meilleur ami et qui revenait comme si elle revenait du badminton, elle revenait d'un club de sexe en fait, voilà. C'était c'est très hygiéniste finalement, et mais c'était voilà, c'était ce rêve là et dans ce rêve il rencontrait il se rendait compte que son ex amour de sa vie faisait partie de ce club là et il voulait la reconquérir. Et c'était une note que j'avais. J'ai plein de notes, de projets, de bouts de pistes. Et c'était pas du tout sûr que ça voie le jour. Je savais pas du tout si c'était un projet qui allait m'intéresser à réaliser concrètement. Et parmi les projets, je feuillette le truc, je parle de ça à Fabien et il m'arrête et fait attends, il y a peut-être un truc qui m'intéresse. Parce que j'ai une autre idée qui pourrait correspondre, parce que j'ai besoin d'incarner un petit peu les concepts que j'ai et que j'ai envie de faire de la fiction en bande dessinée. Et ces concepts-là, eh ben, il leur faut une histoire et des personnages. Donc ce début d'histoire pourrait peut-être matcher avec ce que j'ai en tête.
Oui, c'est devenu une des pierres en fait, du récit. Quoi,
voilà, c'est ça. Rêve,
c'est même, je dirais, la deuxième moitié du récit. Mmh. C'est qu'au même moment, donc pour reprendre le fil de ma réflexion, j'avais cette idée d'une fiction, pourquoi pas explicite, pornographique ou érotique à voir, et j'ai eu une idée dont j'étais trop content, et dans ces cas-là, j'ai tout de suite envie de l'écrire, c'est un truc un peu obsessionnel. Et l'idée, c'était de m'inspirer de l'Oulipo. Donc, je ne sais pas si vous voyez tous ce qu'est l'Oulipo, au cas où je le redis, c'est l'ouvroir à littérature potentielle, qui en bande dessinée est appelé Ubapo. Donc, c'est des types de créativité sous contrainte. L'exemple le plus connu de l'Oulipo, c'est le roman La Disparition de Pérec, qui a été écrit sans la lettre E. Donc, la contrainte de départ est d'écrire un roman sans la lettre E. C'est quand même assez compliqué. Et je m'étais dit à un moment donné, comme ça, de délire sans doute insomniaque, et tiens, ça serait quoi un nous sexpo, un ouvroir à sexualité potentielle, et on se donnerait des contraintes sexuelles pour réinventer l'érotisme, d'où le titre de cette conférence sans doute, et c'est-à-dire une sorte de jeu qui consisterait à dire, bon ben là on interdit telle chose, ou au contraire on oblige à, et qu'est-ce que ça donnerait ? J'avais pensé à en faire une fausse fiche Wikipédia, c'est vous dire à peu près le niveau d'adolescent, là encore, du un peu potage de la chose. Je me disais, ah, ça serait rigolo. Puis après, je me suis dit, ben non, je ne vais pas passer des plombes à faire une fausse fiche qui va intéresser personne. Et en plus, je trouvais l'idée intéressante, mais assez désincarnée. Pour reprendre ce que dit Gwen, c'est que j'ai un concept. Le fait est que Polaris est quand même une BD qui reste assez conceptuelle. Mais voilà, j'avais ce concept qui était de dire, ça serait quoi un nous expo, un ouvroir à sexualité potentielle. Et comment je peux raconter un truc pareil ? Parce que de fait, une fiche Wikipédia n'est pas un récit. Et quand Gwen me parle de ce couple sur fond de libertinage, déjà je vois qu'il y a déjà un récit dans cette petite phrase. C'est quand même quelqu'un qui veut récupérer. Il y a déjà une tension dramatique. Quelqu'un veut récupérer une ex qui est dans un club libertin. Or, dans ce club libertin, c'est la liberté qui prime. C'est justement le fait de ne pas être en couple. Donc, pour la reconquérir, il doit faire comme s'il était pas du tout dans cette notion de possessivité, et alors qu'en réalité, il est fou amoureux d'elle. Donc on est dans une contradiction presque tragicomique.
Oui, il avance masqué, complètement masqué. Oui,
oui c'est ça, c'est un sacré sournois quand même.
Mmh. Enfin, du haut, en tous les cas. Mmh. Masqué du haut.
Oui, pas masqué partout. Je me demande l'impression que vous allez vous faire de la BD quand même en entendant ce qu'on dit là. Et du coup, je me suis dit, ça, c'est assez parfait, parce que moi, en ce moment, j'ai envie d'écrire ce truc sur une sorte douce expo qui va s'appeler, in fine, Circé, le cercle de Circé. Gwen m'apporte sur un plateau un récit avec des personnages. Et le fait est que quand tu disais qu'il y a le libertinage peut être vu comme une forme d'hygiénisme ou de pratique hygiénique, je l'ai vu et entendu quand j'ai eu l'occasion, très rarement, mais parfois, d'aller dans des clubs pour interviewer des gens. Je me rappelle vraiment texto d'une nana qui me dit « Mais oui, c'est vrai que des fois, le week-end, je fais une orgie, mais d'autres fois, j'ai kayak. » C'était pas plus... Il n'y avait pas d'intensité transgressive plus forte que ça. C'est pas du style « J'ai kayak !» Donc, et ça m'aurait un peu ennuyé que le récit montre le libertinage que de ce côté, même si dans les faits, ça ressemble un peu à ça, surtout quand ils veulent être prosélytes. C'est clair que quand ils me parlaient du libertinage, il y avait un peu un côté « c'est cool, parlez-en autour de vous, faites venir un peu en mode « c'est cool, venez dans notre club ». Et ici, dans le cas du récit que me proposait Gwen, je trouvais plus intéressant que le cercle soit un peu étonnant, mystérieux, un peu baroque, pour tout dire. Et c'est après l'espèce d'équilibre qu'on a essayé de trouver dans le récit de Polaris. C'est comment on évoque à la fois la destinée de différents personnages, on va peut-être évoquer un petit peu l'histoire, et derrière, en arrière-plan, ce qu'est ce fameux cercle de Circé. Donc les personnages, peut-être évoquer un peu quels sont...
Gilles, il voulait poser une question.
Oui, non, il y a l'enquête, mais effectivement, vous êtes presque trois, finalement, dans la conception, peut-être, dans ce que j'ai compris par rapport à l'éclairage de la sexologue Capucine Moreau. Est-ce que ça a contribué au récit, ou c'est quelque chose qui est juste, son apport a été juste de renforcer votre opinion que finalement votre histoire avait une vraie prise dans le réel?
C'était plutôt ça. Capucine Moreau, donc, pour la citer, elle est arrivée relativement tardivement dans le projet, mais en cours d'écriture du scénario, plus parce que je cherchais à valider certaines de mes idées. Donc pour expliquer un tout petit peu, le cercle de Circé. Circé, c'est un acronyme pour dire la chambre d'invention et réglementation de chimères érotiques. C'est des gens qui inventent des jeux sexuels. Et donc, je me suis retrouvé quand même avec une sorte de défi qui était d'inventer des jeux sexuels. Donc, j'ai une vie formidable. Et donc, je les notais le soir. « Hey, j'ai une bonne idée de jeu de cul !» Devant ma cheminée avec une pipe. Enfin, imaginez vraiment la scène parfaite. Et simplement, le risque, c'était que mes jeux soient débiles ou pas jouables ou pas intéressants ou qu'ils existent déjà, parce que je ne suis pas un grand connaisseur de jeux libertins. Je me suis rendu compte de fait que les libertins n'avaient pas une grande inventivité érotique. C'est des pratiques qui sont assez codifiées. Genre, on va faire du cotacotisme, on va faire du mélangisme, on va faire du 2+2. Je vous laisserai chercher sur Internet tout ce que ça veut dire. Mais c'est des pratiques, une fois qu'on les connaît, on peut cocher, on voit ce que c'est, quoi. Et donc, il me fallait des gens plus pour aller vérifier l'inventivité des jeux que j'essaie de mettre en place. Et dans cette recherche de personnes pour critiquer les jeux, bon, il s'avère qu'il y en a qui ont fini par tester certains des jeux, mais dans la recherche de ces personnes, Capucine Moreau a été une personne clé. Et en plus, le fait qu'elle soit sexologue me rassure un peu sur l'honnêteté de nos intentions. C'est comme si ça mettait quelque chose d'un peu sérieux sur cette recherche, qu'on n'était pas dans un club de kayak. Je pardonne toutes les directions. Ouais.
Alors, juste pour parler sur l'aspect graphique, parce que c'est vrai que je trouve que par rapport au récit et par rapport à l'intention, entre guillemets, non pas érotique, mais de travailler autour de l'érotisme, la bande dessinée est en noir et blanc, avec des apports couleurs. Donc ça, c'est aussi intéressant, parce que c'est pas courant d'une manière, de toute manière, mais aussi la présence... je dirais très importante du noir, en fait. Il y a vraiment quand même un gros travail sur l'obscurité, sur les contre-jours, vraiment un chouette travail sur le contre-jour. Et alors, pour reprendre un petit peu ce que tu dis, moi je trouve que ça participe vraiment à la tension du récit et cette tension érotique, parce que on sait que le contre-jour va peut-être ou pas aboutir, entre guillemets, à quelque chose de plus explicite, mais même si c'est pas rendu visuellement, on sait que le contre-jour est là pour participer aux personnages de la bande dessinée. Enfin, ils sont, je dirais, dans le prémisse de l'acte, ou en tous les cas du jeu mis en scène, des choses comme ça. Donc je trouve que ce même graphiquement, on a cette sensation de tension érotique, en fait, par le graphisme. Ouais.
Ah ben, tant mieux, je visais ça, donc tant mieux. Mais j'ai ajusté beaucoup de choses en cours d'élaboration, parce que notre méthode de travail avec Fabien, on met des choses en route, mais elles sont pas complètement finalisées. J'avais fait quelques dizaines de pages, le scénario n'était pas tout à fait fini, mais on savait où on allait. Mais il y a des choses qui sont réglées en cours de route. On avait enfin, moi j'avais très envie de travailler un petit peu sur la narration et sur le médium lui-même. Ça fait plusieurs années que j'avais pas fait de bande dessinée comme dessinateur. J'avais toujours continué comme scénariste et je fais moins d'albums comme dessinateur. Et à chaque fois que je fais un album, je me dis, bah, je vais essayer de pas creuser le même sillon, voir comment ça peut être excitant ou de faire quelque chose qui est en phase avec ce que je suis aujourd'hui et pas celui que j'étais il y a 6, 7, 8 ans. Et en tant qu'auteur, qu'est-ce qu'on peut apporter quand on fait une bande dessinée? Faut aller interroger ça, quoi. Quelque chose d'un petit peu particulier, sinon bah, c'est un album de plus sur les étals aussi. Donc y a une espèce de recherche d'honnêteté à se dire bon, est-ce qu'on peut aller interroger un petit peu plus loin les limites de notre savoir-faire et le médium lui-même. Et en cours de route, on s'est dit il y a des personnages qui racontent des histoires, des choses qui leur sont arrivées, donc des sortes de flashbacks qu'on a appelés des récits subjectifs. Et à chaque fois qu'un personnage va raconter son histoire, on a décidé de l'incarner par un graphisme différent. Alors ce qui fait le lien, c'est que c'est en couleur et qu'il n'y a plus de contour de case. Mais chaque personne, c'est comme s'il y avait une tessiture, un timbre de voix un peu différent. On essayait qu'il y ait une personnalité qui se dégage à chaque fois. Et ce qui a permis aussi, finalement, de faire, de représenter la sexualité de plein de manières différentes. Puisque je changeais aussi, je passais du crayon de couleur aux aquarelles ou à l'encre. Voilà. Donc ce qui a permis aussi d'avoir une diversité d'approches de la représentation graphique de la sexualité.
Ce qui d'ailleurs recoupe un peu ce que j'avais moi perçu dans L'Herbier sauvage. Sur les 72 récits du premier livre de L'Herbier, c'est 72 façons de parler de sexualité. Et chacune est différente. Et ce qui moi m'a le plus frappé dans ces entretiens, c'est à quel point une expérience qui paraît si commune à tout le monde, ou en tout cas chacun a une vision de la sexualité, à défaut d'avoir éventuellement une sexualité, mais à chaque fois on en a une vision qui est particulière. Et le fait de pouvoir utiliser ça de manière graphique sur une idée de Gwen, hein, qui m'a dit j'aimerais bien qu'il y ait ça, c'est un assez beau défi qui me semblait assez bien collé avec cette impression d'une sexualité qui reste extrêmement subjective quand même, extrêmement plurielle, avec d'ailleurs une question de fond par rapport à cette notion de subjectivité, c'est celle du consentement, sur lequel on reviendra peut-être, mais qui est très centrale dans Polaris, à savoir si chacun a une expérience qui est très personnelle et très subjective, à quel moment il peut y avoir un différentiel entre les perceptions d'une même scène, entre deux personnes.
Oui, d'une même situation, enfin on le voit, enfin, là c'est vrai que c'est presque une gageure aujourd'hui de sortir... un récit autour de Circé à l'époque de Balance ton porc. Quoi. Donc,
Mais ça tombait bien, en fait, justement. C'était oui, assez, la coïncidence, soit en passant, était assez drôle parce qu'on a donc créé ça, on a commencé à travailler dessus il y a presque 3 ans, je oui. pense. Le terme de Circé s'est imposé très vite. Et en cours de route, effectivement, on a le hashtag Balance ton porc qui sort. Et Circé, pour rappel, une figure mythologique qui transforme les hommes en cochons. Et nous, on avait utilisé Circé aussi parce qu'à la fois, c'est une magicienne et qu'elle, de fait, elle transforme des gens en animaux. Et la notion d'animalité dans la sexualité est intéressante, la notion de magie, de transformation. Et dans Polaris, il est énormément question de en quoi ce cercle de Circé transforme ses différents membres. Donc je prends vraiment un tout petit moment juste pour expliquer un tout petit peu l'histoire, que vous ayez les grandes lignes. Donc il y a un double récit dans Polaris. D'abord, c'est l'enquête d'une jeune flic, Jeanne, qui est libertine la nuit, qui l'assume complètement, mais ne le dit pas à ses collègues, et qui est une très bonne flic le jour. Et il y a un meurtre au sein d'un cercle qui s'appelle Circé. Et donc, elle va enquêter sur ce meurtre, mais on sent qu'elle est intéressée par Circé, bien au-delà du meurtre, parce que ça interpelle quelque chose chez elle. Et via des flashbacks au début, on a le chemin de Boris, qui est plus le personnage qu'on évoquait dans ton idée de départ, qui essaie de reconquérir une femme dont il a été amoureux et dont il est encore sans doute amoureux, qui fait partie de Circé. Et on comprend assez vite que c'est cette femme dont on a retrouvé le cadavre dans le premier fil narratif. Donc on a ces deux chemins qui vont s'entrecroiser dans la narration, sur fond de en quoi Circé va les transformer, et Jeanne et Boris. Si je résume très très rapidement, en quelques mots, je pense, ce qu'est l'album.
J'en profite pour dire que s'il y a des questions dans le public, n'hésitez pas. Mais alors,
oui, il y en a.
Ah, déjà, bon. Je ne sais pas si on peut faire...
Mais qu'est-ce qui t'a pris? On avait dit que ça resterait entre nous. Mince.
En plus, j'en ai deux, mais courtes. La première, tout au début, vous parliez de la représentation imagée du sexe et des problématiques que ça pose au cinéma. Je ne sais pas quelle place a le cinéma d'animation là-dedans.
Ah oui, ça existe, mais il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Mais il y en a, c'est vrai qu'il y en a.
Et la deuxième, concernant la diversité, tout ce qui est inventivité en termes de jeux sexuels, on va dire, je ne sais pas ce qu'il en est pour le libertinage, je ne connais pas très bien, mais de ce que j'en ai entendu, dans le domaine du BDSM, en revanche, il y a des choses assez riches, et pour le coup, la notion de jeu est assez présente.
Tout à fait. Deux réactions à ça. En termes d'animation, le vrai, ça serait un médium fantastique pour de l'explicite. Il y a un problème de coût. Ça coûte extrêmement cher et le rapport qualité-prix d'une vidéo pornographique mise en ligne avec une caméra et la qualité qu'on connaît ou pas, puisque vous n'allez pas sur ces sites-là. Mais pour le travail, on a été obligés de le faire.
On est professionnels, c'est vrai.
On est des professionnels ou on ne l'est pas. Ça ne coûte rien du tout. Une animation coûte cher, mais j'ai en tête un exemple d'un court-métrage à Anima en Belgique. Je crois qu'il a été primé. Alors, je ne sais plus qui avait fait ça, c'était une femme. Et c'était sur une conductrice de tram qui se met à fantasmer, et d'un seul coup, tout devient sexuel, elle voit des bites partout, c'est hyper drôle, c'est vraiment bien foutu. Donc c'est un exemple, ça se fait, mais c'est cher.
C'est un peu comme dans l'expo de Bebdom.
Un peu dans. Attention à ce que tu vas dire comme blague. Et sur la question du BDSM, il s'avère que, outre la sexologue dont on parlait, Capucine Moreau, un des endroits où j'ai eu le plus d'aide et de retours, c'est des gens qui organisent des workshops à Paris, et c'est plus par le biais du BDSM que je les ai trouvés. En gros, ça a été basique. Hein, j'ai tapé sur Internet, érotisme, créatif, qu'est-ce qui se fait ? Et je suis tombé sur des gens qui organisent l'Erosphère, qui est un festival sur l'érotisme à Paris, comme il y en a d'autres à Berlin ou à deux, trois endroits comme Explore ou des gens comme ça. Mais c'est des gens très proches du BDSM et du fétiche, ou du cosplay, tiens, pour faire un vague rapport avec les utopiales à un moment donné. Ou du jeu de rôle. Et en fait, c'est des gens qui, effectivement, sont les plus proches de ce que pourrait être Polaris, à savoir des gens qui vont, par exemple, organiser une espèce de mise en scène. Des fois, ça peut être assez trash, de ce qu'on m'a raconté. Ça, j'y ai pas assisté. Sur, vous êtes prisonnier pendant 3 jours, mais vous êtes vraiment prisonnier. Et il va y avoir des tortures, ceci, cela. Il va y avoir des scènes de sexe imposées, ceci, cela. Et tout ça est contractualisé. Et la notion du contrat et des règles de jeu, elle est très, très importante dans Polaris, parce qu'il y a vraiment cette notion de, c'est quoi un jeu entre deux personnes ? Dans le cas de Polaris, ça peut aller jusqu'à 8 ou 9, parce qu'ils ont beaucoup d'imagination. Mais fondamentalement, c'est quoi le contrat qui est passé au moment de la sexualité ? Où se situe le consentement dans ce contrat ? Et c'est, là, une fois de plus, c'est très, très, très central dans Polaris. Et ce qui était très troublant quand le livre a été terminé, c'est qu'entre-temps, la question du consentement était devenue centrale dans les discours avec MeToo. Et donc, je pense qu'on était dans l'air du temps. Je ne peux pas dire qu'on a prévu le truc. C'est que c'était des questions qui, à mon avis, sont centrales dans la sexualité. Le seul défaut qu'avait c'est pas un défaut, mais la discussion qu'on a eue avec ces cercles qui sont plutôt dans le BDSM, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, bondage, domination, soumission, masochisme ou discipline, il y a peut-être, je ne sais plus très exactement. En gros, c'est du SM. Hein. Quand on dit BDSM, ça veut dire en gros sadomasochisme. C'est qu'ils avaient un vrai problème avec le fait qu'on aborde ces thématiques par le biais d'un polar et en commençant par un crime. Parce qu'il nous disait, on souffre déjà d'une image qui est relativement sulfureuse, alors que ça reste quand même un jeu de rôle entre personnes consentantes, avec un safe world. Soit en passant, Polaris, c'est le nom d'un personnage qui a créé le cercle de Circé, c'est aussi le safe world des jeux. Quand quelqu'un dit pendant un de ces jeux Polaris, ça veut dire on arrête tout. C'est intéressant d'appeler un livre « Arrête tout ». Mais dans le BDSM, c'est fondamental, cette notion du safe world. Et donc, en gros, il me disait, voilà, t'es reparti dans un cliché, BDSM, fétiche, mort, Thanatos, Georges Bataille. Bon. Alors, et c'est un peu vrai. Et simplement, ce qu'on en parlait avec Gwen, donc je t'inclus hein, dans ce... Il se trouve que je les voyais en allant plus souvent à Paris, mais je leur disais, oui, mais Polaris n'est pas quelque chose qui va prôner le sexe positif, ce que prônent les gens du BDSM et du fétiche. Mais c'est quelque chose qui parle de la sexualité. Or, dans la sexualité, Georges Bataille n'a pas dit que des conneries. Il y a aussi une idée d'anéantissement de soi ou de l'autre qui peut aller jusqu'à la mort symbolique ou pas. Maintenant, c'est vrai que si on ne retient que ça de Polaris, on passerait peut-être à côté de ce que je crois on essaie d'évoquer autour de la sexualité. Donc on essaie de leur dire que le crime dans Polaris est un prétexte symbolique pour parler de la sexualité dans tout ce qu'elle représente, y compris son versant le plus négatif. Et on voit bien dans l'histoire de consentement que la sexualité n'est pas que positive dans plein de cas. Mais elle peut l'être.
Et puis on voulait faire un récit et pas une thèse. Voilà. Même s'il y a beaucoup de concepts qui sont maniés.
Il y a quand même un vrai aspect anthropologique, moi je trouve, découverte et montrer, disons, voilà, d'une société presque secrète, entre guillemets, qui est un peu parallèle, quoi, qui fonctionne sur cet aspect-là.
Oui,
et juste pour rassurer tout le monde, le rapport quand même avec le festival, même si on vous aime bien et que c'était cool de vous avoir ici, c'est que le thème, c'est le corps. Donc là, on est quand même un peu dedans, enfin, passez-moi l'expression.
On est complètement dedans.
Vous êtes tous dedans, les amis. Mais oui, puis c'est le cercle de Circé a quelque chose de presque fantastique à certains égards. Donc on pourrait aussi voir quelque chose d'assez proche du thème du fantastique.
Bah, les mises en scène en contre-jour, moi c'est vrai qu'il y a, bon, j'ai pas mis toutes les planches là forcément, mais on est vraiment dans une atmosphère mystérieuse et ça invite vraiment le lecteur à s'y intéresser au moins du point de vue du récit jusqu'à la fin de la bande dessinée. Après, c'est vrai que ça soulève beaucoup de questions quand on sait effectivement que vous avez franchi allègrement la limite de la fiction et de la réalité en ayant, voilà, des rendez-vous avec eux, avec des discussions, des choses comme ça.
Non, pas moi. Moi, j'ai voulu me préserver parce que...
Une forme de candeur.
J'avais besoin de travailler, j'avais besoin d'argent, j'ai fait Polaris.
Alors que moi, j'étais en mode complètement foufou.
Non, mais blague à part, je trouvais intéressant de faire, comment dire, de servir au filtre de ce qui allait devenir le récit. Et que si on était tous les deux dans la recherche, entre guillemets, et dans la rencontre, finalement, je servais aussi de garde-fou et d'incarnation des personnages et du récit. Et assez naturellement et spontanément, j'ai voulu me préserver de ce terrain-là, en fait. En disant, on va en faire un récit qu'on va donner à lire à des gens et il faut que faut que mon rôle soit préservé.
C'est vrai que tu étais le garant de dire, c'est avant tout, on a un récit à raconter. Moi, en fait, c'est vrai qu'en allant voir des personnes qui me faisaient le grand honneur de s'intéresser à ce qu'on faisait et donc qui ont fini par proposer de tester des jeux, ça, c'était quand même la grande nouveauté. C'est que moi, j'y allais pour être critiqué. Ils ont dit, non, mais on va faire mieux, on va tester les jeux, puis on va voir ce qui marche ou pas. Et pour vous mettre dans le contexte et l'état de stress dans lequel ça m'a mis, c'est qu'on fait donc une soirée jeu. Donc moi, ça me donne l'impression d'être le mec qui fait de la cuisine pour la première fois de sa vie et qui invite 12 personnes en disant « on va se régaler, les amis !» Avec en plus ces deux nanas qui sont plutôt des dominatrices qui organisaient le truc, qui me disaient « mais Fabien, tu devrais aller jouer !» avec un fouet à la main, puis moi « non, je sans façon, j'ai un rhume encore !»
Je savais que ça allait être intéressant.
Et on teste les jeux, et il y en a, c'est vraiment des foirages complets, donc on se sent un peu humilié, puis en même temps, les gens disent « qui a eu l'idée de ce truc ?»
Si tu te sens humilié, elles étaient contentes.
On est dans la thématique. Et puis, il y a ceux qui ont marché. Donc, dans le cas présent, il y a deux jeux qui ont bien marché dans cette soirée. Il y en a qui s'appelle le jeu du Sphinx, qui est un jeu d'énigmes. Je précise quand même, pour enlever une toute petite partie, peut-être de l'audace de ce que je suis en train de vous représenter, c'était pas forcément très poussé, les jeux. Il n'y avait pas forcément une sexualité débridée, mais il y avait beaucoup de gens en sous-vêtements, au bout d'un moment quand même, où on parlait de cul tout le temps. Bon, ça, d'accord. Mais c'était pas forcément une orgie globale avec moi au milieu, avec mon petit carnet. Même si c'est un peu comme ça que je vends le truc derrière, mais bon, ouais. Et donc, en fait, il y a des jeux, genre le jeu du Sphinx, c'est un jeu d'énigmes, mais en gros, celui qui remporte l'énigme a droit de coucher avec la personne symboliquement, c'est ça l'idée. On l'a utilisé assez tel quel dans le récit. Un autre qui a très bien marché, c'est le jeu qui s'appelait à l'époque les marionnettistes. C'était deux marionnettistes et deux marionnettes. Et donc, les deux marionnettistes font jouer leurs marionnettes entre elles. Et l'idée, c'était de voir quel type de dynamique ça peut donner à des groupes. Il y a eu deux tests avec quatre personnes différentes. Il y a eu deux jeux complètement différents, dont un, ça ressemblait plus à un jeu d'échecs. Les deux marionnettistes étaient en battle via leurs marionnettes, qui se battaient, quoi. Enfin, c'était assez impressionnant. Parce que dans les milieux BDSM, il y a tout un mouvement de jeu, de sexualité et d'érotisme autour du combat, autour d'une sorte de catch, en fait, où tu dois choper l'autre, l'immobiliser. Enfin, c'est pas comme le shibari ou le bondage. C'est pas forcément ligoter, mais c'est entraver l'autre. Donc, c'était des joueurs comme ça. Une autre partie, c'était comment on va... faire explorer à nos marionnettes des sujets qu'ils ne connaissent pas. Et par exemple, il y avait un type qui était un master pas possible, qui d'habitude fait plutôt de la domination. Il était manipulé par un marionnettiste pour être tout doux, tout gentil. Et il n'avait pas du tout l'habitude. Donc lui, c'était une expérience assez étonnante pour lui. Donc je me suis dit, là, le jeu, il fonctionne aussi. Et puis, je donne un autre exemple pour rebondir sur le rôle de Gwen. C'est qu'à un moment donné, je propose un jeu qui s'appelle l'Hérosismogramme, et qui était un truc dont on avait parlé avec Gwen, et qui était très important pour nous. Et là, personne ne voulait y jouer dans ce cercle-là. Et donc, je finissais par me dire, mais donc c'est peut-être que le jeu n'est pas bon, ou ceci et cela. Mais Gwen me disait, oui, mais là, on en a besoin pour le récit. Et donc, on ne va pas être que dans le côté « faites-nous plaisir, dites-nous si les jeux sont bien ou pas ». On va se dire à un moment donné, c'est notre BD, c'est notre récit. On n'est pas obligé de tout faire valider.
Mais
tout
moi, je doutais que ça puisse être joué réellement. Par contre, j'avais de gros doutes là-dessus.
Alors, il s'avère qu'en fait, on a fini par trouver, via justement Capucine Moreau, qui a dit « ah, mais je pense connaître des personnes que ça pourrait intéresser ». Mais ça a été un autre milieu. Et donc ces personnes-là ont pratiqué ce qu'on a appelé l'érosismogramme, qui, pour le faire très vite, est une représentation... c'est difficile à décrire vite, en fait, mais c'est comme un journal intime de deux personnes qui vont bientôt faire l'amour et qui diraient chacune, voilà, à tel moment, telle date, voilà ce que j'ai pensé de mon partenaire, à quel moment j'ai pensé à il ou elle. Et ensuite, on met les deux journaux intimes en parallèle l'un côté de l'autre. Donc c'est comme si on lisait dans la tête des deux.
Avant et pendant aussi.
Avant l'acte, pendant l'acte, tant qu'ils peuvent écrire.
C'est là où j'avais des doutes. En fait.
Voilà, et ben oui, non mais moi aussi. Et après. Et en fait, moi j'étais persuadé de l'intérêt narratif de ça parce que j'en avais besoin pour Polaris. L'intérêt c'était de dire qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pendant qu'ils font l'amour. Et je pense que l'obscénité, la vraie obscénité, elle est beaucoup plus dans la tête que d'être nu face à l'autre. Parce que par exemple la pornographie vidéo ne montre pas. On n'est jamais dans la tête des acteurs. Dieu soit loué parce que je pense que des fois les pauvres, ils doivent se dire mais putain, mais qu'est-ce que je fous là. Mais effectivement, je doutais un peu comme toi de jusqu'à quel point le jeu pouvait se faire de décrire, quoi, enfin physiquement même. Et puis on a trouvé des gens qui ont accepté de le faire et ils ont débriefé leur carnet l'un et l'autre dans un bar où j'étais. Et chacun a lu son truc et ça a hyper bien marché. Et je me suis inspiré de beaucoup de choses qu'ils ont pu dire pour l'érosismogramme qui est évoqué dans Polaris. Et pour la forme visuelle, on a aussi énormément travaillé cet érosismogramme qui est très central dans le récit.
Oui, on s'est inspiré des Laban notations, c'est ça. Hein, c'est
annotation de Laban,
ouais, qui est un chorégraphe et qui a traduit ça finalement en images sur des sortes de partitions.
De la danse.
De danse.
Ouais, ouais. De danse contemporaine, ouais. En fait.
Et voilà, sur le principe. Et après, bon, il fallait en faire quelque chose. Par rapport à ce que dit Fabien, nous dans notre histoire, on en fait une petite œuvre et elle est codée. Donc d'où l'intérêt de s'inspirer de Laban ou Laban, je sais même pas.
Laban.
Laban. Et là-bas, c'était ça. Mais après, j'ai extrapolé et j'en ai fait quelque chose qui était plus proche de moi graphiquement, mais c'était sur cette base-là. Et parce que dans Polaris, l'idée, ce sont les jeux, mais c'est aussi il y a une quête existentielle et qui passe par l'art. Ce sont des jeux artistiques. C'est pas des jeux
gratuits entre guillemets.
Chacun doit essayer de se dépasser tout le temps en fait.
On peut pas ramener la bande dessinée à cet aspect juste érotique. On est d'accord quoi. C'est parce l'aspect récit, intrigue policière et intrigue tout court, c'est quand même ce qui est prédominant et le côté concept, exploration des pensées, des réflexions, de jusqu'où peut amener la sexualité à transformer l'autre, comme tu disais, c'est quand même ce qui est présent le plus, enfin beaucoup plus dans le livre que, entre guillemets, les scènes de cul. Quoi. Ne l'achetez pas que pour ça, vous allez être déçus sinon.
Non, c'est ça, c'est ce qu'on disait au début, c'est que si c'est purement pour l'érotisme, vous risquez d'être un peu en manque. Par contre, c'est une sorte de métaphysique, en fait, comme quand on avait fait Les Derniers Jours d'un Immortel en science-fiction. C'est une métaphysique, mais qui passe par la sexualité, parce que je crois que la sexualité dit beaucoup de ce qu'on est. Là encore, y compris quand on ne la pratique pas. Mais ça dit quelque chose de ce qu'on est, le rapport qu'on a au corps, le rapport qu'on a à la sexualité.
Et moi, je trouve qu'il y a un aspect qui est intéressant graphiquement dans la bande dessinée, enfin dans cet album, et j'imagine que le fait de le faire avec Gwen, ça c'est pas... La question du graphisme ne s'est pas posée en premier lieu, puisqu'on est loin des clichés érotiques, en fait. On est d'accord que la représentation des personnages, à aucun moment, enfin, c'est pas du Manara, ni du Serpieri, il n'y a pas un aspect graphique érotique. C'est que la mise en scène dont on parle tout à l'heure, les clairs-obscurs, la tension du récit qui amène cette part d'érotisme, et pas du tout la représentation de ce qu'on pourrait appeler un stéréotype du corps humain et féminin, a fortiori. Et je trouve que, du coup, la présence de l'érotisme, malgré cette absence de forme ronde, on dira, pour résumer le tout, est d'autant plus réussie. Quoi.
Oui, il y a des formes rondes, mais... non, mais c'est vrai que c'était pas le but premier, effectivement. Mais Je voulais faire un récit avec des vrais gens, en fait. Donc souvent dans un récit qui est purement érotique ou qui n'a pas d'autre ambition que d'être érotique, ou si, qui peut en avoir, mais où c'est pas pour lequel c'est l'enjeu principal. Il y a parfois des obsessions de dessinateurs où ils font des femmes, ils les font très bien, mais ils font souvent la même. Serpieri va faire la même femme opulente. Manara, il les dessine très bien, mais c'est voilà, il change de couleur de cheveux un petit peu, mais c'est la même femme. Moi, je serais pas capable de dessiner comme il dessine, donc je dis avec humilité, hein, mais j'ai essayé de faire des gens qui ont des corps normaux, quoi, en fait, et de pas figer un stéréotype, voilà. Et du coup, y a parfois des gens qui sont pas sublimés, quoi, non plus.
C'est une des choses qui, moi, m'avait énormément marqué. Donc, j'ai aussi moultement raconté à Gwen, donc il doit en avoir marre, le pauvre. Mais c'est dans les chocs que j'ai pu avoir quand j'ai été invité, dans la seule soirée, pour être précis, seule soirée échangiste à laquelle j'ai pu un peu assister. Le rôle que je m'étais donné pour avoir, justement, pour pas ressembler à ce que je décrirais tout à l'heure, donc le type tout seul avec son carnet. Donc, je faisais le service pour me rendre utile. Donc, du coup, je passe entre les gens, je leur file des flûtes de champagne, soirée Noël. Donc, en plus, ils ont les petits costumes de Noël, enfin, nus, mais avec un petit chapeau de Noël. Et il y a deux, trois choses qui m'ont vraiment marqué et qui ont, je pense, qui sont en fait très, qui se sont retrouvées dans Polaris par mégarde, parce que j'y allais pas pour ça au départ, c'était pour l'herbier sauvage. Mais la première, c'est que les corps sont normaux et c'est quand même un choc justement par rapport à une imagination qu'on peut avoir d'une orgie, quoi. C'est que je m'attendais un peu à voir du Serpieri Manara en version live, mais à part une ou deux personnes qui étaient assez bien foutues et qui le savaient et qui le montraient, c'est-à-dire qu'il y avait une façon de traverser la salle qui était un peu ostensible quand même. C'est, t'as vu mon cul? T'as vu ma bite? Bon, ok. Tous les autres sont normaux. C'était même, on les aurait habillés, mis dans la rue. Je me serais pas dit, voilà des gens qui vont à une orgie, quoi. C'était impossible à deviner. Donc premier choc. Deuxième truc qui m'a inspiré une scène de Polaris, c'est que c'est pas parce que c'est une orgie qu'on baise avec tout le monde et que tout le monde accepte. Il y a qu'il y a la notion du consentement aussi dans les milieux échangistes contemporains, parce qu'il semblerait que ça soit relativement récent, si j'en crois Jean-Louis Tripp, qui a fait un bouquin qui s'appelle Extase, où il parle de son histoire sur en tant que libertin. Depuis 10-15 ans, la notion du consentement féminin est centrale dans les clubs, parce que sinon, les nanas ne reviennent pas, ce qui est assez compréhensible. Donc, en fait, une des règles à laquelle j'ai assisté, c'est qu'il y a des codes physiques, de langage physique, pour dire est-ce que tu veux ou pas qu'on fasse quelque chose, et comment ça se passe. Et dans ce club-là, c'était l'homme qui souvent vient vers la femme, pose la main sur son épaule, et la femme, si elle n'est pas intéressée, commence par mettre sa main sur la main de l'autre d'un air de dire « c'est gentil ». Quand même, il y a une espèce de côté, ça me flatte. Il ne faut pas faire genre, dégage, idéalement, quoi. Sauf s'il y a vraiment un choc, non, n'approche pas. Mais logiquement, c'est genre, c'est gentil, et elle enlève la main, et c'est clair qu'en fait, il n'y aura pas d'acte copulatoire. Et bien, j'ai vu un mec qui s'est pris 3-4 vestes comme ça, dans la soirée. Et je me suis dit, mais wow, c'est hyper violent, quoi. Tu viens à une orgie, et tu te prends une grosse veste, que j'ai appelée partouze veste dans Polaris. Parce qu'en fait, c'est pire que l'adolescence, quoi. Non, parce que là, t'es là pour ça, quoi. T'es là pour baiser et personne veut de toi. Bon, il y avait sa femme, hein, qui était là, mais visiblement, c'était pas son. Puis sa femme s'occupait très bien toute seule, en plus. Et donc, lui, le pauvre, c'était la soirée de la loose, quoi. Et moi, j'assistais à ça et je me disais, mais putain, je suis trop content de faire le service, quoi. Parce que. Quelle situation de fou. Et je finis avec le coup de sublimer ou pas.
Est-ce que pour le service, t'avais gardé le calot de Spirou?
Alors, non. Pour la petite histoire, pour le service aussi, ce qui est drôle, c'est que donc j'étais un des rares habillés, quoi. Enfin, il y avait les mecs qui faisaient le service, les nanas,
je
les mecs.
Pas, je veux pas avoir ça.
Non, on est d'accord. J'avais pas le calot de Spirou. Mais par contre, il y a un moment donné, je me sentais tellement à côté de la plaque que je me suis senti obligé de déboutonner ma chemise. Pour me dire, ça y est, je suis un peu plus dans la norme.
Parce que quand ça, tout le monde. C'est quand même dur, la vie de
on est d'accord. De BDI. Quand je raconte ça à ma mère, surtout, vous verriez sa gueule. Genre, tu étais où exactement? Tu as fait quoi? Non, mais c'est sociologique. Et je reviens au côté de sublimer ou pas. Les corps ne sont pas sublimes. Enfin, dire, c'est des corps normaux, donc ils sont beaux, pas beaux. Enfin, ça dépend de l'impression qu'on en a. Mais une scène qui m'a énormément marqué, et je pense qui est très présente dans la fin de ce qu'on dit dans Polaris, c'est précisément une de ces personnes qui avait un corps normal, mais en tout cas que je n'avais pas calculé. Je vais le dire comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle était arrivée en début de soirée. Je me suis dit, bon, bah, c'est une des nanas qui est là, mais je n'avais vraiment, vraiment pas repéré. En fin de soirée, quand j'ai vu l'état dans lequel elle était, c'est-à-dire une espèce de côté, elle était transfigurée par ce qu'elle avait vécu, vraiment, et elle était belle, quoi. Elle était hyper belle, alors qu'elle n'avait pas un corps beau dans l'absolu. Mais sa façon de vivre le truc, moi, m'a complètement ému. Alors que Dieu sait que le contexte était trivial. Je veux dire, le coup des petits chapeaux de Noël et tout, je le dis en marrant, mais c'est vrai qu'au début, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. on est dans du kitschissime, c'est pas possible. Et en fait, non, parce qu'ils arrivent, du moins ceux qui le vivent bien, arrivent à dépasser ça et à vivre un truc qui peut être de l'ordre du sublime. En tout cas, je le crois. Et on s'est un peu inspiré de cette notion de ça peut être vu comme une calamité d'un côté et comme un truc sublime de l'autre, selon là où on se situe et comment on a vécu l'événement. C'est quelque chose qui est très, très, très central dans Polaris, y compris dans un truc qu'on appelle justement la nuit de Circé, qui est un peu un événement mythologique autour du club. Et l'enquête tourne énormément autour de cette fameuse nuit de Circé.
Est-ce que vous pensez que les clubs vont garder quelques-uns des idées évoquées au cours de l'élaboration de ce travail finalement ?
Écoute, je vais devoir y retourner pour vérifier, mais ça sera vraiment pour le travail. Ben, les clubs libertins, non, parce que je te dis, ils ne sont pas assez peu inventifs, donc je ne m'y attends pas. Les clubs BDSM, fétichistes, peut-être, mais ça reste à voir.
Et est-ce qu'au niveau de votre public, du coup, depuis la sortie de la bande dessinée Polaris, donc est-ce que dans les files d'attente au niveau des dédicaces, vous avez senti un petit changement ?
Par rapport aux gens qu'on a d'habitude.
Par exemple. Quand,
ouais. Sur Spirou, genre, par exemple.
Par exemple.
est-ce que la réponse est dans ta question ?
Ça pourrait, oui.
On précise au passage qu'on va dédicacer à 16h, hein, pour ceux qui se disent, malgré tout ce qu'on a pu dire comme conneries, qui se disent, hey, ça a l'air vraiment bien, Polaris. Donc on sera content d'en continuer à parler de ça avec vous tout en vendant notre cam. C'est pas le même public du tout. Alors c'est déjà rarement un public de bande dessinée classique. C'est un public un peu plus proche de ceux qui ont aimé Les Derniers Jours d'un Immortel qu'on avait fait ensemble, qui était de la métaphysique en science-fiction, mais c'est pas tout à fait le même livre non plus. Je pourrais tout à fait comprendre que quelqu'un qui n'a pas aimé Les Derniers Jours puisse aimer Polaris et inversement. C'est vraiment un public spécifique de gens qui ont envie de se poser des questions sur l'érotisme, et c'est une littérature très particulière. On en parlait avec Thomas Caden qui a fait Alt Life. Ça fait partie de ces BD contemporaines, il n'y en a pas 10 000, hein, qui s'interrogent sur ce qu'est la sexualité avec des livres qui ne sont pas forcément des livres excitants. Alt Life n'est pas forcément excitant, pourtant il y a du cul partout.
Ceci dit, quand tu cites Alt Life par rapport à Polaris elle-même, honnêtement, je n'ai pas du tout l'impression que ce soit que le lecteur soit celui qui va être attiré, soit attiré par cet aspect justement de la sexualité, parce qu'on le lit quand même en premier lieu, sur un récit d'enquête,
oui,
sur un cheminement, un destin, suivre des personnages. Enfin, ce que vous aimez dans la bande dessinée, vous allez le retrouver complètement dans ce récit-là. Après, bon, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez mettre des carrés blancs, comme à l'époque. mais le récit lui-même se tient sans l'aspect cul, finalement. Enfin, il faut quand même le dire, quoi.
Oui, mais enfin, c'est quand même central. Je veux dire, ça part
c'est
quand
central,
même beaucoup
mais...
du cul. Quand même.
On peut être transposé dans une tribu amazonienne, ça aurait été aussi excitant et aussi intéressant, quoi.
Quand même, avec des amazoniens.
J'essaie
de me représenter la scène, en fait.
C'est bien d'avoir un retour de lecteur comme ça, ouais, très bien.
Mais disons que c'est à la fois central et à la fois, effectivement, c'est... L'enquête, c'était vraiment posé la question longtemps, longtemps pas tant que ça, en fait. Assez vite, on s'est dit que l'enquête criminelle était hyper pratique pour justement emmener le lecteur dans un univers a priori qu'il ne connaît pas, sans dire au début, tiens, c'est un bouquin de cul. De fait, on ne le classerait pas, nous, en librairie, dans le rayon érotique. Ça serait plutôt,
oui, ça c'est une question. Enfin, la deuxième question, c'est une vraie question. Les libraires, ils font comment, du coup ?
Ben, ils ne savent pas trop. Comme pour l'herbier sauvage, hein, l'herbier sauvage, ils ne savent pas. Est-ce que, comme ma mère, ils estiment que c'est sociologique, l'herbier sauvage, et ils vont le mettre en rayon sociologique, je l'ai trouvé en rayon bien-être et couple. Je ne sais pas si Polaris a une chance de se retrouver en bien-être et couple. Ou rayon cosplay, tiens.
En développement personnel.
Développement personnel des chakras.
Est-ce qu'il y a des questions ? Parce que le
oui,
temps
du
passe.
Coup, on avait désolé, ah, on désolé, t'a zappé ouais. Tout à l'heure.
Merci. Question polémique. Je vais peut-être vous sortir un tout petit peu de Polaris en particulier pour aller plus vers la BD en général. Au début, vous aviez parlé de la BD comme espace de liberté créative par rapport en particulier au cinéma pornographique. Est-ce que vous avez entendu parler du dernier album de Bastien Vivès ?
Un peu, oui.
Ouais. Alors j'aurais aimé avoir votre avis là-dessus, parce que notamment, ce qui est à votre avis intéressant, parce que souvent les herbiers, justement, on le met en opposition avec la BD de Bastien Vivès en disant, voilà, Bastien Vivès, c'est un peu une sexualité malsaine, et voilà comment on peut faire de la bande dessinée érotique, voilà, une sexualité saine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on peut... parler de ça aussi en bande dessinée, est-ce qu'il y a quand même des limites à ne pas franchir ? Merci.
Alors, on a 4 minutes pour parler de la polémique Bastien Vivès. Heureusement, Gwen m'avait prévenu, parce que je t'ai passé à la radio pour parler de Polaris, et Gwen m'avait dit, je préfère te prévenir, il y a une petite polémique autour de Bastien Vivès. Et on m'a interrogé dessus à la radio, et comme j'écris pour les enfants à côté, que je fais des livres de cul de l'autre, et que c'était une polémique sur de la pédophilie, je peux vous dire que j'y suis allé en serrant le cul. en me disant « Oh putain la vache !» Donc heureusement, j'ai développé toute une série d'arguments, mais que je vais essayer de résumer très 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 rapidement. Pour ceux qui n'auraient pas suivi donc, la polémique de Petit Paul, c'est que c'est une BD qui met en scène un enfant de 10 ans avec un très gros sexe et qui se fait plus ou moins abuser par des femmes à gros seins. Je vais très très vite, mais c'est à peu près ça l'idée. Et ça a été accusé d'être une BD pédopornographique, parce qu'il y a eu une pétition pour essayer d'en interdire la présence dans des magasins. Certains Cultura et Gilbert Joseph ont effectivement retiré plus ou moins le livre des ventes. Ce que j'ai essayé de dire autour de ça, c'est que ça ne me semble pas être une BD pédophile, parce que ça a été beaucoup dit. C'est plus si on parle de fantasmes et de précision des fantasmes, parce qu'à force d'interroger des gens, je me fais une petite idée de la chose. Ce que met en scène Bastien Vivès, c'est le fantasme de s'infantiliser soi-même et de jouer à être un enfant. Il ne joue pas avec le fantasme d'abuser d'un enfant, qui serait plus pédophile. Il joue avec le fantasme de lui se représenter comme un gamin à gros sexe, chacun sa came, qui se fait abuser par des femmes à gros seins. On est dans un truc assez oedipien. Et il le fait d'une manière extrêmement potache. C'est-à-dire que si on est prêt à entendre ce type d'humour, on peut vraiment se marrer en lisant son bouquin. Si on n'est pas du tout dans ce délire et qu'on a été abusé sexuellement par une institutrice ou que sais-je, ça devient un très mauvais délire. Et ça pose une autre question, c'est de la réception d'une œuvre pornographique qui est logiquement et plutôt pour un public très défini et assez petit, quand c'est mis en polémique sur Internet entre autres et que d'un seul coup tout le monde est au courant de ce truc. Donc la métaphore plus ou moins habile que j'ai employée pour essayer d'évoquer ça, c'est que, bon, imaginons que Bastien Vivès a fait un album de blagues de Toto porno. Imaginez qu'on est dans une église pendant un enterrement et qu'il y a deux couillons derrière, tout au fond de l'église, qui se racontent une blague de Toto idiote parce que ça leur change les idées ou n'importe. Ben, Internet, c'est comme si on captait ce qu'ils sont en train de dire et qu'on le faisait passer à l'avant de l'église, devant le corps de la personne enterrée. Et là, d'un seul coup, ça paraît insupportable pour les gens qui enterrent un proche. C'est genre, mais comment osent-ils me faire une blague de Toto à la messe, quoi ? Sauf que ce n'était pas prévu comme ça au début. Donc ça devient un truc très vite clivant. Et le phénomène d'Internet, on en parle beaucoup avec Gwen sur les forums, devient très vite pour ou contre la pédophilie. Alors, présenté comme ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'avoir une nuance de parole, quoi, en disant « Ah, c'est vrai que, bon, comment... » Et le simple fait de réfléchir à la réponse, t'es grillé, quoi. Donc, est-ce qu'il a le droit d'écrire des trucs comme ça ? Oui. Est-ce que c'est pornographique ? Oui. Si on est dans le fantasme, comme le chef d'entreprise qui se fait dominer par une dominatrice en se déguisant en bébé, parce que c'est ça le fantasme de fond. Oui, des gens le font, ça peut les exciter. Est-ce que c'est fait pour exciter un pédophile ? Non. Est-ce que ça peut être choquant pour quelqu'un qui a subi des actes alors que... Oui, mais ça, c'est pas à lui que c'est destiné. Donc, effectivement, c'est très épineux. Dès qu'il s'agit de propager sur la place publique quelque chose qui n'avait pas lieu de l'être, je pense. Bon, là, je le dis de manière très, très résumée. Mais après, c'est passionnant. Les questions que ça pose sont passionnantes. Mais est-ce que c'est le meilleur livre de Bastien Vivès ? Non. Mais on peut se marrer quand même. Il y a quelques... Enfin, on est dans l'humour énorme, quoi. Dans l'énorme avec un H, quoi. C'est vraiment... Mais de temps en temps, ça arrache un rire, oui, quand même, parce que c'est tellement énorme que ça... Enfin, bon, bref. Je vous laisserai le voir, si vous voulez. Il sera sans doute vendu aux Utopias. Non, peut-être pas. Pas vendu aux Utopias. De toute façon, c'est mal. La pédophilie est mal. Ça enregistre.
J'attends le cosplay de Petit Paul. Mon Dieu.
J'ai trouvé. Est-ce qu'il y a une dernière question, et puis après, on va rendre la salle ? Non. Pas de dernière question.
Non, visiblement, on doit arrêter. Coitus interruptus.
Alors, j'espère que vous allez tous vous diriger vers la salle de dédicace pour retrouver nos deux compères avec leur BD croustillante et leur humour croustillant. Merci à vous. Merci pour ce bon petit moment. Merci.